Bonsoir Jane Birkin.
Bonsoir.
Je ne suis pas la seule à être ravie de vous accueillir à Bordeaux. Et alors, donc, je suis ravie de vous accueillir à plusieurs, puisque donc nous allons faire cette interview avec Dolly, que je présente, puisqu'elle va rester avec nous. Alors, donc vous venez pour nous présenter ce livre, Monkey Diaries.
Oui.
Qui est un livre dans lequel vous avez repris, qui a dû être un travail assez conséquent, vous avez repris de vos notes, de carnets, parce que vous avez toujours écrit.
Oui, parce que ma sœur m'a donné un carnet quand j'avais 12 ans, même plus petite, je crois. En Angleterre, c'est une tradition d'écrire son journal. Si tu es malheureuse, ta mère te dit toujours... Ben, écris avant de dormir, et comme ça, tu dormiras mieux. Donc, c'est pas si original que ça. Et j'avais commencé le journal à 12 ans, à 12 ans à peu près. Mais quelle est cette question? C'est Dolly qui me préoccupe parce que j'entends ses pattes partout.
Non, mais elle va s'installer.
Qu'est-ce que tu
disais? Il n'y avait pas de question. Je disais juste voilà, que c'est donc ça a dû être très difficile de classer, de reprendre. Peut-être que c'était commun d'écrire. Ce qui est moins commun, c'est le travail que vous venez de faire, probablement, pour trier et choisir les morceaux que vous alliez publier.
Oui, c'est surtout, j'en ai paumé pas mal, et c'est comme si c'était pas du tout fait pour être lu plus tard. C'est juste des carnets, comme des carnets d'écoliers, en fait. Et j'en ai trouvé quelques-unes, mais il y a quelques années qui manquent. Je les trouvais dans un mal. Enfin, c'est étonnant que je les aie encore, parce que j'ai bougé de maison beaucoup. Et...
On saute parfois d'une année à l'autre, effectivement, parce que
oui.
Vous avez perdu... C'est ça, des
je vais peut-être les trouver quelque part. Mais c'est... Oui, et puis j'en ai enlevé des choses qui ne me semblaient pas très intéressantes. Mais je me suis rétractée aussi. J'ai fait tout ça avec Gabrielle, quand j'étais à l'hôpital, en fait.
D'accord.
Ma copine Gabrielle commençait de lire mes journaux qui étaient dans un mal. Et comme elle s'occupait de moi... Elle les a triés, ils étaient tous en anglais, et puis elle les a dictés dans un magnétophone.
Un magnétophone.
Oui. Et puis imprimés. Et j'avais un peu oublié qu'est-ce que ça contenait. Mon frère avait lu quelques-unes en anglais, il avait trouvé ça marrant parce que j'écrivais si mal, j'avais un si mauvais orthographe. Donc il avait toujours trouvé ça drôle. Et entre ma copine Gabrielle et mon frère, ils m'ont encouragé de les publier, mais je les ai traduits d'abord avec quelqu'un de super calé, et puis c'était trop bien. Ça ne me ressemblait pas du tout. J'avais envoyé une anecdote à Charlotte à New York pour un petit morceau de moi adolescent où mes parents m'avaient fait chier. Je trouvais qu'elle trouverait ça drôle, ou plutôt sa fille trouverait ça drôle. Elle a dit, c'est très, très bien, mais c'est pas toi. Ça parle pas comme toi. Je me suis dit, oh, merde, alors. Et il y avait un autre garçon, et ça méritait qu'on pouvait pas faire une traduction, mais parler comme ça. Je faisais les virgules en l'air en disant... J'ai une chanson particulièrement difficile à apprendre parce que c'était pas pour moi, c'était pour Adjani. Et c'était Pull Marine. Et à la fin, c'est Je te ferai plus le plan de la star. Ouais, c'est des virgules en l'air, si tout est coupé. Quoi de notre amour, feu, resterait que descendre. C'est des mots hachés, coupés. C'est une technique merveilleuse. Et je comprenais pas pourquoi on pouvait pas faire ça plus comme ça. Et il a dit non, en français, c'est plus long. Et en français, c'est deux fois plus long. Pour dire une phrase et ou de dire une négation. En anglais, c'est tellement plus... C'est comme un cartoon, quoi, en anglais. Et puis après ça, il me semblait que... tout d'un coup, j'ai eu peur. Et j'ai dit à Sophie que je ne voulais plus le publier.
D'accord.
Pendant 6 mois, à peu près, j'ai eu les pieds froids. Je me suis dit, oh là là, dès que j'ai lu le tout, je me suis dit, ils vont voir clair en moi, ils vont... Ils vont être déçus. Ils pensent que je suis courageuse et une fille peut-être bien meilleure que je suis. Et là, on voit toutes les mauvaises décisions, toutes les incertitudes, une sorte de, un truc fatigant sur soi-même de, d'être toujours dans le doute. De, voilà. Et puis, 6 mois plus tard, la vie était un peu plus gaie. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, peut-être si je peux mettre des commentaires et si je peux ajouter ce qui n'était pas là du tout, ni des films, ni des enregistrements, ni aucune vie professionnelle. Il n'y avait que le privé qui m'intéressait et les enfants. Donc, j'ai ajouté un peu avec Sophie.
D'accord.
Et puis, je lui ai raconté des anecdotes, ça la faisait rire, donc ça m'encourageait. Et finalement, je l'ai laissé sortir, mais je peux vous dire que le jour de sa sortie, je me cachais. J'avais envie de vomir, c'était une terreur, de, surtout de le jugement de la famille.
Les proches. Si,
mais oui, je suppose qu'ils trouvaient que c'est en soi une chose à pas faire de publier ses pensées.
Quelque
Parce qu'après tout, ils involent toujours quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que vous dans la vie. Donc c'est vrai que c'est votre point de vue, c'est forcément injuste. Vous n'avez pas la... Voilà, c'est pas comme d'écrire un dialogue pour un film où vous pouvez imaginer l'autre personne. Surtout quand on écrit, généralement, on est très triste. Quand on est gay, on a autre chose à faire que d'écrire son journal. Donc c'est assez injuste aussi, même le sentiment qu'on puisse avoir.
Mais alors, ce livre, au contraire, on a l'impression de vous entendre nous parler presque personnellement. D'abord, on entend votre voix en lisant le livre, tellement votre façon d'écrire, et donc le travail que vous avez fait probablement pour ajouter des choses, fait qu'on a l'impression que c'est parfaitement vous, avec une grande honnêteté, c'est-à-dire qu'effectivement, vous décrivez aussi des états émotionnels avec une franchise admirable.
Je sais pas si c'est admirable. Hein.
Alors, vous êtes très courageuse, finalement.
Ça, oui. Pour le coup,
hein?
Ça oui, je me suis dit, oh. Parce que quelqu'un dit qu'elle avait pensé à faire son journal. C'était une autre écrivain, enfin, c'est un autre écrivain, pardon. C'était une très grande personne de l'art contemporain. Elle a dit qu'elle a fait faire un livre de sa vie, mais comme un roman de gare. Elle l'avait écrit, mais très très personnel. Et puis elle a fait lire à 3 personnes. Elle a dit, je ne les ai plus jamais revus. Donc je me suis dit, oh, je vais perdre tous mes amis, tout, ma famille.
Et finalement,
c'est un danger épouvantable, épouvantable, potentiellement, mais évidemment.
Et finalement, ça va?
Ça
se passe
encore.
Bien. Dans ce livre, on vous suit évidemment sur toutes les années avec Serge Gainsbourg, essentiellement, j'ai envie de dire. On a l'impression aussi de vivre vraiment en plein cœur de l'intensité des années 60-70, surtout. Ce livre est aussi presque historique, tellement vous peignez avec précision une ambiance très insouciante.
Ça, oui, c'était insouciant.
Alors, vous avez ce livre, en fait, on a l'impression que c'est La moutarde me montonnait avec Pierre Richard. Vous avez une vie quand même incroyablement rocambolesque, Jane Birkin.
Je pense que tout le monde a des vies plus drôles, enfin plus. Ça m'a toujours impressionné quand les gens disaient, oh mais elle était tellement gaie ce matin. Et voilà, quelqu'un se tue l'après-midi ou saute d'un pont. Oui, mais ça dépend ce qui se passe dans la journée. On est très gaie, puis quelqu'un vous fait une réflexion ou quelqu'un ne vous fait pas de réflexion et vous prenez ça mal et ça tourne au vinaigre, comme on dit. Si pour un peu on boit comme des trous. Comme nous, ça peut finir très très mal ou très très bien ou les deux.
Ah, vous et avez quand même le sens de la scène. Hein. Vous avez quand même, hein, vous avez le sens de la scène et vous êtes entouré de gens qui l'ont autant que vous.
Bien sûr, mais c'était une époque où on rigolait beaucoup. Enfin, en tout cas nous, on sortait tous les soirs, donc on n'était pas des parents magnifiques non plus. C'était une autre façon de vivre. On revenait à, je sais pas, 4h, 5h du matin, 6h. Et les enfants se levaient, et puis on attendait qu'ils se réveillent, et puis ils prenaient leur petit déjeuner dans nos minuscules petites cuisines rue de Verneuil, et puis eux, ils partaient à l'école, et nous, on est allés se coucher. Et puis à 4 heures, moi, j'étais là à la sortie de l'école, et tout recommençait comme ça. Donc c'était une autre forme de vie, où pour Serge, c'était drôle d'avoir des figurants. Donc il m'achetait des robes pour être jolie, pas parce qu'il y avait des photos, pas parce que on nous donnait des trucs, pas du tout. Il est payé très cher les choses, mais c'était juste pour sortir et c'était juste les autres personnes étaient les figurants. Mais il fallait qu'il y avait du monde. On n'allait pas en tête à tête, juste nous deux quelque part. C'était un sens de sortie comme ça. Et c'était très gai ça.
Vous aviez conscience à ce moment-là de toutes les personnes avec qui vous étiez, parce que tout de même vous vous êtes retrouvés dans un nombre de soirées, de fêtes, avec des personnages qui marqueront l'histoire des arts, du cinéma. Vous en aviez conscience ?
Non. Non, pas du tout, parce que notre vie était à la fois... C'est ça qui me plaisait de publier, c'était la simplicité avec laquelle Serge, après son crise cardiaque, quand on est parti en Bretagne, c'était merveilleux d'être à Josselin, avec lui, dans ce petit village. C'était... On avait loué une petite maison, mais vraiment, il y avait deux chambres à coucher, je pense, et un endroit où le chien pouvait dormir dans une sorte de berceau. Et Madame Raymond, qui était là pour les enfants, et je suis arrivée dans mon petit Volkswagen, et Serge dans un taxi, parce qu'il n'aimait pas ma manière de conduire, il avait raison. Donc il suivait avec les enfants, et moi j'étais là avec les bagages. Et c'était la simplicité même. Quand Paul-Émile est venu nous rejoindre, Serge pouvait parler le russe et jouer aux échecs. Sinon, avec moi, c'était des petits chevaux, c'était des jeux comme ça. Mais il m'a fabriqué tout de même, sur papier, le damier pour les petits chevaux, et ou jouer au morpion. Et le charme de cette personne si cultivée, si romanesque, si russe, si juif, si métropolitaine, de le voir à Josselin dans ce petit endroit-là et de se soucier tant de le fermer à côté pour qu'il ne se fait pas engueuler par sa femme parce qu'il avait bu un coup avec Serge. Et toute la tendresse de ce personnage, je pense que ça se voit avec le truc de trop boire. Donc ça, c'est évidemment, ça fait des scènes de... très hystérique et surtout vers la fin, très dramatique pour lui. Donc, c'est... Voilà, ça s'est inversé dans le drame russe aussi. Mais je trouvais que quand il retourne dans son petit village, quand il retrouve la personne qu'il ne reconnaît plus, que tout ça, c'était tellement poignant. Quand il voulait acheter le petit négro, le petit statue en plâtre, et moi, j'étais affolée parce que le petit négro, il était... Même les gens venaient regarder dans la mercerie, rien que pour voir le petit négro, qui avait deux chiens qui tiraient sa culotte. C'était un petit... comme le petit bateau, mais c'était un petit garçon noir. Et ça, j'ai dit, je le veux. Et puis, j'ai vu les Bretons qui ne voulaient absolument pas le vendre. Et puis, tout d'un coup, Serge a dit, je ne sais pas ce qu'il a dit, 1000. Et ils ont dit nouveau ou ancien. Et il a dit nouveau, quoi. Et puis il paniquait un peu parce qu'il ne savait pas s'il n'avait pas mis un zéro de plus. Enfin, c'est de la folie. Et en une demi-heure, le petit négro était mis dans une boîte de chaussures. Et il était à nous. Et Serge a dit, on peut acheter tout homme. C'était la leçon.
Ça vous a glacé. Vous racontez que ça vous a fait un drôle d'effet.
C'est une petite histoire à la Maupassant. C'est quelque chose de piquant, parce que c'était un homme tout à fait chou. Oui. Mais... Tout à fait chou, mais... qui aimait bien voir. Sinon, c'est pas drôle. Il aurait été juste... Non. Je pense que les gens l'ont bien deviné, ce personnage.
Et alors, avec la Bretagne, vous racontez aussi que, finalement, vous avez une histoire très particulière, et depuis longtemps, depuis bien plus longtemps.
Oui. À cause de papa.
À cause de votre père.
Oui. Mais ça, j'étais contente de voir aussi à quel point... Enfin, je savais à quel point j'aimais mon père, mais à quel point papa, ma mère, mon frère, ma sœur comptaient à ce point. J'étais contente de les revoir. C'était vraiment très difficile à traduire Kate. Parce que comme elle est morte, c'était très, très troublant de traduire comment était son œil. Le petit trait qu'elle avait dans l'œil qui allait lui porter bonheur, on croyait. Alors, Ça, c'est compliqué. Je pense que c'est la raison pour laquelle Charlotte ne peut pas le lire, parce que tous leurs souvenirs d'enfance sont aussi dedans. Et ils sont attachés, Kate et Charlotte. Donc, c'est... Voilà, j'étais contente que je les ai bien cernés aussi. Leur caractère, Charlotte, comment elle était exactement, sa perfection. Toujours par les anecdotes, finalement. Et si tu n'écris pas tous les soirs et tout de suite, eh bien, ça passe et tu oublies, en fait.
C'est vrai. Mais alors, dans ce livre, on se rend compte que vous êtes très, très attachée à la famille. Mmh. C'est vraiment un clan qui vous porte, qui vous soutient. C'est très important.
Mais ils étaient merveilleux, ma famille. On ne pouvait pas commencer meilleur, il me semble. J'avais des parents, mais exquis. Exquis. Et tellement exquis, probablement, que je... Comme peut-être qu'il y en a d'autres personnes ici qui ne sont pas de la France. Mais ils étaient tellement parfaits et tout était si rigoureusement formidable que... Je pense que j'aurais jamais osé être actrice, je n'aurais jamais osé, il me fallait la France, d'être loin de les corrections qu'on pourrait me faire de parler bien ou mal. Ils ne sauraient pas parce que c'est un langage étranger. Ils ne savaient pas parler le français aussi bien que moi. Et j'avais un argot, de toute façon, à tout couper, grâce à ça, pratiquement dès le départ. Donc c'était... C'était un pays extraordinaire et étrangère, et j'étais libre, libre. Parce que malgré le fait que c'était Swinging London, et etc., on imagine qu'on soit très libre. Moi, j'étais Mrs. John Barry, et j'étais très, très correcte. Et j'aurais jamais osé faire des photos à poil, des trucs comme ça. Enfin, ça aurait été... ça aurait mis mes parents dans beaucoup trop d'embarras. J'étais juste trop bête de réaliser que, en fait, Louis Magazine s'achète aussi à Londres. Alors, et maman avait dit, oh, tout de même, je t'avais demandé juste une chose, c'est pas de t'attacher à un radiateur. Bon, c'est vrai. Alors, à part les réponses comiques du genre, c'était pour l'édition de Noël, tu voulais quoi, que je sois habillée en Papa Noël. C'est vrai que je menais pas à large.
Vous dites que la France vous a choisi, que du coup, vous avez choisi la France.
Oui, et des Français. Il y a quelque chose dans cette adoption qui m'a absolument sidérée. Et c'est encore mieux que des vrais parents, presque. Enfin, je veux dire, par là, l'idée de l'adoption, c'est pour ça que c'est tellement important d'accueillir les gens bien. Je veux dire, accueillir les gens... Bien.
Oui.
Parce que, en fait, dans cet accueil-là, on est bercé. Moi, j'avais la chance de parler très mal le français, de faire rire les gens avec mes bêtises, d'être un peu mignonne. Donc, les gens ont été a priori plutôt charmants avec vous. Mais c'est vrai que cette la façon française. Ça fait que Kate aussi avait cette même impression. Kate et moi, on était prêtes à mourir pour la France. Je m'en souviens juste que nos maris disaient « on va par nous ». Alors, c'était cette sensation-là que ça donne. Vraiment. Alors, j'ai eu la chance finalement d'aller... Que Grambla est venu à Londres et qu'il a demandé de voir tous les filles un peu dans le vent et qu'il me demande de faire un test en France et qu'il m'a choisi. Parce que sinon, j'aurais devenu quoi? Peut-être j'aurais fait un petit peu un métier de... Quoique, je crois même pas. Si ça avait marché avec John Barry, je serais toujours là à couler son bain et chauffer son soupe de tortue. Tu vois? Il y a quand même les choses où ça te semble que c'est une catastrophe. Et finalement, c'est la meilleure chose qui puisse se passer. Oui. C'est qu'il se barre. C'est vrai. C'est vrai. C'est formidable. C'est formidable.
En France, vous êtes aussi beaucoup battue. Vous avez été assez engagée.
Ah oui, je pense.
Vous êtes battue de plusieurs façons. Vous racontez vos engagements donc en fait, bien sûr, l'avortement, Badinter, la peine de mort. Et puis, vous avez aussi des engagements plus personnels, finalement très féministes, puisque vous vous battez pour avoir votre propre chéquier.
C'était pas vraiment en bataille.
vous affranchir des hommes quand même.
C'est-à-dire que j'avais des hommes très forts. J'étais séduite par les personnes qui étaient brillantes. Donc ces personnes brillantes, le double de mon âge, avaient un trait commun de tout commander, tout faire, tout voilà. Donc d'évoluer de ça, ils aimaient pas trop. Je disais à Serge, oh, regarde les pieds de Charlotte, ça dépasse les barreaux de son petit lit. Il a dit, mets les soquettes. Il y avait pas question d'acheter un lit plus grand parce qu'il fallait pas qu'elle grandisse quelque part. Il fallait pas qu'on change. Alors c'est vrai que c'était compliqué de. En plus, on est à l'heure parce que je voulais avoir ma petite chambre à moi. Parce que je vivais dans un musée, le rue de Verneuil était un musée. Mais quand j'avais ma petite chambre, j'étais un coup d'œil en disant c'est le bordel là et tout ça. Je disais mais j'ai le droit d'avoir un bordel, j'ai le droit de faire comme je veux. Mais ça l'agaçait beaucoup. Il disait qu'il avait un tel bordel dans la tête que si en plus c'était des bordels devant, il devenait fou. Alors je dis mais non, entre pas dans ma chambre alors. Alors, je pense que l'histoire d'échiquier est peut-être là-dessus.
Non, mais vous, en fait, c'est assez beau. Vous racontez comment vous essayez de trouver l'équilibre entre ces hommes que vous aimez et puis le moment où vous essayez quand même de vous faire une place. Voilà. Donc, votre livre a ce côté féministe sans être vindicatif du tout, mais où vous montrez quand même que voilà, c'est une réflexion que vous avez en permanence et probablement avec laquelle vous avez élevé vos filles.
Je ne sais pas si il me semble qu'ils ont été plus indépendants et plus. Ils avaient des parcours quand même complètement différents. Je ne sais pas si c'est. On peut dire que ça soit grâce à nous du tout. Je ne sais pas. Il y a Kate qui vraiment a fait son centre parce qu'elle avait tombé dedans. Drogue, alcool, etc. C'est la personne qui a sauvé plus de vies que je connais. C'est bien Kate. Parce qu'avec son centre à Bussy, c'est toujours là, hein, non payant. C'est un endroit pour alcools anonymes et narcotiques anonymes. Et puis elle avait ce don d'être créateur de costumes, mais Serge et moi n'avaient pas les sous pour une créatrice de mode. Moi, je ne savais pas comment on démarre dans ce truc-là. C'est pas du tout mon domaine. Donc, on filait un peu de l'argent fraîche, mais à part ça, comment l'aider de faire cette mode qu'elle faisait vraiment exquisement. Et plusieurs personnes ont acheté de maison en maison où elle les vendait. Ses costumes extraordinaires. Et puis après ça, elle a tourné vers la photographie. Aucune de nous faisait de photographie. Et elle était maître en scène. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. C'était d'une précision, d'une délicatesse absolument parfaite. Mais elle était beaucoup, beaucoup plus aventureuse que moi. Quand je disais, oh là là, Kate se fait tourner la tête par ses amis à l'école. Elle a des mauvaises fréquentations. Tous ses copines, c'est leur faute. Hein. Ils ont dit, mais c'est votre fille qui menait la danse. Donc, oui, c'est Kate qui menait la danse. Et donc, elle était beaucoup plus spirituelle. C'est elle qui m'a téléphoné une nuit en disant, maman, regarde les actus. Donc, j'ai dit, oui, c'est en train. Et elle a dit, mais il faut qu'on aille en Japon tout de suite. J'ai dit, c'est absolument. Allons-y tout de suite. Et j'ai téléphoné le jour après pour savoir si elle avait, voilà, si elle savait de quoi elle parlait la nuit avant, si elle était vraiment toujours dans le même mood. Et elle a dit oui, oui, oui. Alors moi j'ai booké des billets tout de suite. J'ai téléphoné l'impresario que j'avais là-bas. J'ai dit fixez-moi deux ou trois musiciens. Je viens chanter pour monter le moral des Japonais. Et c'était l'idée de Kate. Et puis, tout d'un coup, elle a eu peur, parce que comme j'ai eu pas mal de chimio, elle a dit, oh, mais il ne faut pas que tu ailles, parce que tu vas avoir trop de rayons. Je dis, je pense qu'au point où j'en suis, ce n'est pas très grave. Et elle est arrivée après son anniversaire à Tokyo, mais c'était elle le chef, elle était extraordinaire là-dessus. Donc voilà, est-ce que ça vient de son père, sa mère, de ce qu'ils ont vu de mon père? Ils savaient tous que c'était un type qui était assez extraordinaire pendant la guerre. De ma mère, qui de sa manière aussi, elle jouait sur scène avec des bombes qui sautaient de droite à gauche. Quelqu'un à New York m'a dit qu'elle chantait A Nightingale Sang in Berkeley Square. C'était son chanson si connue pendant la guerre. Elle disait I might be right, I might be right, but I'm perfectly willing to swear. Et puis elle mettait sa main comme ça. Bam! Ça sautait à côté. Là, 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 là. Elle continuait. C'est parce que, et quand j'ai dit, mais quel. J'ai pas dit quel courage, mais j'ai dit waouh. Elle a dit, mais j'avais peur des souterrains. Je voulais pas aller dans le métro. Je préférais chanter pour ceux qui voulaient bien rester. Et tout Londres est resté et l'écouter à la Savoie. Donc, c'est voilà. Est-ce que mes enfants ont vu ça? Moi, j'avais au moins reconnu que Charlotte avait quelque chose de très spécial à 8-9 ans. Jacques Doyon et moi cherchions une fille pour La Pirate. Et j'ai vu que Charlotte regardait. Elle venait sur tous mes tournages. Et je me suis dit, suppose que c'est ça qu'elle veut faire. En tout cas, quand le casting nous a dit qu'elle cherchait un petit garçon, je pense, pour paroles et musique, j'ai dit, est-ce que ça peut être une petite fille, quand elle sourit, elle vous donne l'envie de pleurer? Elle a dit oui. J'ai dit, mais elle est à la maison. Et à la maison, j'ai laissé un mot pour Charlotte en disant, il y a un test pour un film au bout de la rue. Et c'était bon. Mais non, Dolly, mais non. Non, Dolly, non. Tout va bien, Dolly, tout va très bien. Ouais. Alors, elle a commencé sa carrière à quoi? À 9 ans, peut-être, avec Deneuve.
Oui.
Et ça, j'ai bien vu, quand même. Et il me semblait que c'était un bon âge de faire quelque chose, surtout si vos parents sont divorcés. Parce que d'être une actrice, vous jouez une autre personne. Vous pouvez être normal à la maison, et puis si vous avez envie de beugler et crier, comme tout le monde a envie à un moment donné, de crier, hurler dans le bus, dans le tram, même ici à Bordeaux, dans le tram, eh bien, on vous arrête. Alors que en cinéma, on vous file un César. Oui. Non, c'est vrai. Donc, ça me semblait épatant de faire ça très jeune, comme Hayley Mills a fait, finalement. Parce qu'après, votre visage change à 20 ans. Donc, si ça n'a pas marché, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Et voilà, c'est ça, j'ai su. Et pour Lou aussi, je savais qu'il y avait un film qui se tournait. C'est elle-même qui a trouvé. Non, avec Lou, c'est elle-même qui a trouvé le film. C'est moi qui ai entendu une chanson d'elle quand elle avait 30 ans, pourtant. Je ne savais pas qu'elle écrivait elle-même. Et elle m'a fait écouter quelque chose et c'était tellement bien. Je me suis dit que, voilà, il fallait que quelqu'un de sérieux l'entende. Étienne Dao, j'aurais bien aimé la produire parce que c'était tellement facile de comprendre que c'était génial. Et est-ce qu'elle a eu ça de son père, sa mère? En tout cas, pour nos enfants, c'est sûr que d'être une actrice, c'est pas très rare. Ma mère est actrice, ma grand-mère était actrice, mon grand-père était acteur. C'est comme de, je sais pas, être cordonnier.
Mais on voit dans votre livre aussi, vous décrivez beaucoup de décors, vous êtes très attentive, vous avez une âme d'artiste bien au-delà, c'est un environnement artistique général, vous parlez de musique, vous parlez de musées que vous visitez, de tableaux que vous aimez, vous racontez aussi l'attention que vous avez pour la beauté.
C'était un peu tarte hein, quand même, mon goût en arrivant en France quand même, je trouve, choquée par les statues nues, c'était pas très original. J'étais originale plus tard parce que Serge me disait oui, mais tu n'es pas initiée donc tu peux pas comprendre la peinture. Alors j'ai dit bon, ça c'est pas très encourageant. Et j'ai dit, mais pourtant, ça c'est Francis Bacon là-bas. Et il a dit, comment tu sais? Alors j'ai dit, parce qu'il ressemble à un Bacon lui-même, c'est lui. Et Il dit, va demander un autographe, c'était si fine. Donc, très bien, j'ai pris il m'a donné un 100 francs, et papa aussi a donné un morceau de papier pour lui, et j'ai foncé là-bas, j'ai dit, vous êtes Francis Bacon? Alors, il était très, très timide, il a dit, oui, oui. Alors, j'ai dit, ben voilà, le monsieur là-bas ne veut pas le croire, vous pouvez faire un autographe sur un billet de 100 balles. Ah, il a dit, j'ai jamais fait ça sur un billet de 100 balles. Mais il a écrit pour Serge, le petit mot pour mon père aussi. Et pour meubler, j'ai dit, oh, mais peut-être vous avez un expo pas trop loin de la rue de Verneuil que je pourrais tomber dessus, peut-être c'est... Et après, beaucoup de broderies de ce genre, j'ai dit, mais vous, en fait, vous faites un expo où? Alors il a dit, au Grand Palais. Je me suis senti con quand même. Au Grand Palais, c'était le plus grand peintre. mais voilà, j'avais pas mauvais goût. Mais j'étais pas initiée, ça.
Vous étiez partie pour quelque chose de très humaniste. C'est peut-être ça aussi dont vos filles ont hérité, puisque vous racontez que vous vouliez être assistante sociale.
Mais mon père était déjà assistante sociale. Donc c'était quelque chose où j'ai vu comment c'était gratifiant finalement. Comment Tom Bell et sa mère, qui vivaient à Battersea, Tom Bell était pyromane, donc il mettait le feu à tout ce qu'il disait. C'était propriété privée de Sa Majesté. Immédiatement allumette et il mettait le feu. Donc c'est contre la loi quand même, donc ils ont décidé d'envoyer Tom Bell en prison. Et mon père a dit non, qu'il lui semblait que c'était beaucoup mieux qu'il est probation officer, d'être un officier de probation, sans être payé. Et à cette époque, on pouvait faire ce genre de choses. Et on allait visiter Tom Bell une fois avec papa. Et Madame Bell avait comme métier de traiter les corps après que vous êtes mort pour vous rendre un poil plus joli. Vous voyez de...
Oui, je vois.
Et donc, dans la cuisine, pendant qu'on attendait Mrs. Bell, les gens arrivaient avec des brouettes et les corps dedans. Elle les mettait sur la table de la cuisine et là, elle faisait son affaire. Elle était tellement contente de papa, elle a dit, oh, Mr. Birkin, when the terrible day comes, I'll make a lovely job of you. Ça veut dire, Monsieur Birkin, quand le terrible jour arrive, je ferai un formidable affaire avec vous. Elle allait le choyer, en quelque sorte. Et Tom Bell était à côté, dans son pyjama, en train de se toucher. Papa a dit qu'à sa place, il se toucherait aussi, parce qu'il n'y avait vraiment rien d'autre à faire dans cette maison, où on voyait les queues de rats entre les lattes de parquet, oui, dans la cuisine. Donc, quand tu as vu tout ça un petit peu, je veux dire ça, Dickens, mais un petit peu, et tu vois cette... voilà, que tu peux venir au secours un peu. C'est très tentant de faire ça. Je pense pas que je... Voilà, je suis actrice, donc... Et dans la même phrase, je pense, quand j'étais petite, je disais que j'aimerais faire ça. Oh, yes, oui, j'aimerais faire ça. Mais il paraît que d'être hôtesse de l'air n'est pas si terrible. Donc, les idées changent quand même beaucoup quand on est adolescent, entre hôtesse de l'air ou être un missionnaire. Ma mère pensait que je partirais pour être missionnaire.
Ah bon?
Oui.
Vous aviez foi?
Oui, oui. Quand j'étais à l'internat, beaucoup, oui. Quand on est très seul, c'est très réconfortant de penser qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous.
Ces années d'internat ont été quand même difficiles. Le début de votre livre est vraiment... Enfin, on sent qu'effectivement, vous souffrez de la solitude, justement, parce que vous avez vraiment cette proximité avec votre famille, que vous aimez énormément.
Je pense que tout le monde dans l'internat, c'est un peu pareil. Et c'était pas un internat méchant, hein. C'était juste le fait d'être en effet privé de ses parents et mon frère, ma sœur. Donc et puis c'était que des filles et il y avait des règlements quand même extraordinairement stricts et vicelard, très anglais, quoi. Ce truc d'être responsable de tout, tout est sur vos épaules et si jamais vous faillissez un peu, vous alliez être la raison de la chute de la classe, l'école, Angleterre, probablement. Donc, c'est quand même très pesant et très... C'est fatigant pour un enfant, ça, toujours. Donc l'internat, c'est vrai que c'était high school, high church, comme on dit. Donc c'est protestante, mais haute protestante. Ça veut dire qu'il y a autant de célébrations que les catholiques, je pense. Le matin, le soir, chapelle, etc. Mais en fait, j'aimais bien ça. J'aimais bien aller seule dans la chapelle. J'aimais bien glisser les trucs en dessous le croix ou en dessous l'endroit où en fait, il y a le balai brosse, hein, mais on pense qu'il y a quelque chose de magique en dessous. Et j'ai laissé des petits mots, des trucs comme ça pour Dieu. Et c'était un grand réconfort de penser que vous aviez quelqu'un. Oui, oui.
Vous parlez de cette culpabilité, effectivement, finalement, oui. de cette éducation où on vous apprend que vous êtes toujours responsable.
Oui.
Vous racontez beaucoup d'épisodes dans lesquels vous avez encore, vous portez encore cette culpabilité. Il y a des épisodes que vous décrivez. Il y a vraiment des moments où vous n'y êtes absolument pour rien, mais vous vous demandez quand même si c'est pas un peu de votre faute. Vous vous êtes débarrassé de cette culpabilité ?
Non, je pense que c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas vraiment s'échapper. Parce qu'il arrive tout de suite. Tu peux pas... Tout de suite. Alors c'est très orgueilleux aussi, hein, d'imaginer qu'on peut faire quelque chose, qui aurait changé quelque chose. Je disais à Kate une fois, pour aller à Sarajevo, je fumais comme un pompier. Hein, mais là, j'ai emmené des cigarettes pour les personnes qui étaient en dessous d'un siège, donc je n'allais pas commencer à fumer leur clope. Donc, j'étais dans le tank. Et puis aussi, je me suis dit, si je ne fume pas du tout et si je ne bois pas une goutte, on va arriver au bon port, sauf. Et j'ai dit à Kate, ça ne te prend pas, toi aussi, que si tu te prives de fumer, si tu te prives de boisson, que voilà, ça porterait...
Comme une superstition.
Oui, c'est ça. Elle dit, non, moi, je ne me prends pas pour Dieu, non. Et je me suis dit, c'est très juste, quand même. C'est très juste, donc c'est peut-être très orgueilleux.
Vous êtes superstitieuse ?
Oui, sur des choses comme ça, oui. Enfin, c'est pire que ça. C'est une déprivation de plaisir pour la trouille d'être puni d'avoir pris ce plaisir-là. Ça veut dire pour les rideaux, quand tu fais des spectacles, c'est une souffrance d'imaginer que vous prenez plaisir. Donc, ça, on finisse le plus vite possible pour être bien pour le soir après, parce que sinon, pour le soir après, ça va être moins bien. Donc, parti comme ça, si vous êtes vraiment chiant comme partenaire, je peux vous dire, parce que c'est un peu joyeux, quoi.
Oui.
Et ils disent, prends un verre. Je dis, si je prends un verre demain soir, ça va être la catastrophe. Alors, ils se disent, oh, bah, alors, bois pas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, un caractère pareil? Donc, c'est pas très drôle. Mais si ça, c'est la superstition, oui.
Quand vous étiez petite, vous vous aimiez pas beaucoup quand même, hein?
Je pense que très peu de nous s'aiment beaucoup.
Vous êtes réconciliée avec vous-même parce que vous êtes très 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 aimée. Vous en avez conscience?
Oui, 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 bien sûr, j'ai conscience, mais c'était. Même papa me disait, je t'aimerais, peu importe ce que tu fais. Et tu ferais que le bien. C'était atroce parce que j'ai dit, mais papa, non, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des... Non, non, pas toi, pas toi. Si, je suis médiocre. Et donc, le bar est très haut. Donc, l'idée de faillir à ce bar-là est assez terrifiante. Même, j'ai rendu compte en lisant le livre que ça arrive tout le temps quand je serai vieille, que je serai... Le beauté physique. Et puis je me suis dit, mais oui, parce que quand j'avais 20 ans, j'avais aucun talent particulier. J'avais juste que j'avais quoi? Que j'étais un petit peu jolie. J'étais pas intelligente comme Charlotte. J'avais pas osé montrer un visage original à 12 ans et former cette caractère-là. J'étais juste mignonne, un peu trop mignonne d'ailleurs, parce que j'avais vraiment pas grand-chose à faire pour que les gens vous prennent dans un film où on vous demande de rien faire, généralement, à part de montrer tout ce que... Voilà, tout ça, parce que c'est mignon. Alors, c'est un peu plat comme affaire. Mais vous dites que, voilà, un peu, si ça, ça part, qu'est-ce qui reste? Je suis bon à quoi d'autre? Qu'est-ce qui va rester? Donc, panique généralement vis-à-vis de la personne avec laquelle tu es, parce que c'est à peu près certain qu'ils vont partir avec quelqu'un d'autre qui est plus joli, plus... Voilà. C'est beaucoup, beaucoup plus tard que j'ai rendu compte que le pire de tout, ça serait d'être quitté, pas pour quelqu'un de plus jeune, parce que ça, c'est très banal. Et autant que quelqu'un soit homosexuel ou si tu es vraiment pas dans la course. Moi, je trouve ça mieux. Mais de partir avec quelqu'un de ton âge qui est plus drôle que toi, je pense que ça serait très dur.
Vous décrivez aussi des moments... À un moment donné, par exemple, vous dites... vous décrivez des émotions avec une acuité remarquable. Vous dites à un moment donné, j'étais tellement heureuse que j'aurais pu tuer ma mère sous les baisers. Vous avez beaucoup d'images comme ça de montagnes russes émotionnelles.
Mais ça m'étonne toujours que les gens sont si sages. Non, mais c'est vrai, quand on prend l'autoroute dans son véhicule, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de personnes qui disent « Ah, j'y vais dans l'autre côté, paf, paf !» Mais pourquoi on est si sage? Je suis épatée qu'on arrive au bout, à Brest, normal. Non, mais c'est vrai, parce que, je ne sais pas, il y a d'autres personnes aussi, sans doute, qui pensent ça. Où tu dis quelque chose et puis... Où tu regardes les gens comme s'ils étaient tous à poil, ou... Je sais pas, on est très raisonnable quand même, il me semble. Mais ici, il y avait un fume formidable avec les gens qui ne regardaient pas la fenêtre du train. C'était une comédie italienne, et lui, il giflait tous les... Ah, tu t'en souviens? C'est irrésistible, ça. Oui, oui. C'est formidable. Mais voilà, c'est des... Je trouve qu'on se tient très bien, mais dedans, ça... Pour tout le monde.
Plus encore aujourd'hui. À cette époque-là, c'était plus facile de montrer ses émotions. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile.
Je pense que à cette époque-là, en étant assez jeune et jolie, on rigolait de nous et on trouvait ça un peu charmant. Mmh. Un grand soulard comme moi, à mon âge, en train de traîner à Saint-Germain, en train de plonger dans le Seine, je pense qu'il aurait moins de compassion. Non? Donc, je sais pas du tout.
Parce que vous ne réfléchissiez pas. Vous avez une spontanéité incroyable. Parce que vous
parlez si, j'ai réfléchissé.
Vous avez réfléchi quand vous avez sauté dans la Seine?
Bien
cet
sûr.
Épisode que vous racontez.
J'avais envoyé la tarte à la crème à Sège. Il fallait pas faire ça. Enfin, c'est des choses à pas faire devant les gens, en plus. Devant les gens méprisants et méprisables. J'avais envoyé la tarte à la crème. Alors, il se mettait debout, et puis des morceaux tombaient, comme ça. Il n'a pas mis la main ou fait des gestes stupides. Non, non, non. Il était allé vers la porte de sortie, où la dame a vite ouvert la porte. Et puis, j'ai vu qu'il prenait à droite, donc j'ai suivi à une distance assez raisonnable. Et puis, j'ai vu qu'il prenait la rue de Saint-Père. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose vite, parce qu'il va tourner à gauche, rue de Verneuil. Il faut que je capte son attention. Si, si, c'était très prémédité. D'affolement, quoi faire. Et j'ai dépassé vraiment vite pour qu'il s'inquiétait ou qu'il se souciait de quelque chose. Donc il m'a vu passer et il y avait le rive rapide, je suppose, à l'époque, ou peut-être il n'existait pas. J'ai descendu des petites marches jusque la Seine. Et Sège me disait que je me suis cachée derrière un arbre pour être sûre que lui, il descendait les marches. C'est tout à fait probable. Et je suis justement ce genre de personne un peu médiocre qui ne va pas se jeter dans la Seine si l'autre personne n'est pas là. En tout cas, il a commencé de descendre les marches et hop, bah oui, j'avais plus de choix. J'étais dans la Seine. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire, en fait. J'étais repêché par un pompier. Ça, j'étais en train d'enlever son montre qui n'était pas waterproof. Et j'ai mon petit top de Saint-Laurent qui disait « Nettoyage à sec uniquement » était comme ça, donc c'était vrai. Et on est parti bras dessous, c'était pas tant.
Vous n'avez pas peur?
Oh ben non, j'avais beaucoup plus peur d'avoir fait quelque chose d'irréparable. Ça, j'ai peur de ce genre de choses. Un peur physique, j'ai pas trop peur physiquement. Et puis, comme de toute façon, je suis totalement insouciant. Enfin, totalement... Il y a peu de mérite. C'est certainement pas le courage, parce que je peux pas imaginer... Je suis très, très optimiste. Donc, je m'imagine toujours que je vais arriver de faire quelque chose. Et le fait d'une bombe ou un truc comme ça, ça semble tellement invraisemblable. Et puis, je pense que c'est des feux d'artifice. J'ai pas eu de vrai malheur à laquelle les gens, les enfants de la guerre, eux, ils disent, ils savent ce que c'est, le sang, les blessures. Pour moi, non, c'est surréaliste d'aller dans les endroits un peu chauds comme ça. Ça m'a jamais fait peur.
D'une façon générale, vous n'avez pas peur, et vous, dans votre livre, on voit bien, tout a une solution.
Il n'y a pas de solution quand un enfant meurt.
Ça. Vous ne parlez pas de cet épisode-là dans ce livre.
Bah non, parce que ça finit quand Kate a 16 ans.
Oui.
Ou peut-être un petit peu plus petite même. Peut-être c'était Dakar, peut-être elle avait 16 ans, c'était son anniversaire quand je suis partie avec Jacques, peut-être. Donc non, elle est morte à 46 ans. Donc non. Là, moi qui étais tellement... Au moins pour les enfants, je ne sais pas sur le métier, je ne connais rien de chanson, je ne suis pas une très bonne actrice, je ne sais pas comment faire des pièces de théâtre. J'ai eu des très bons maîtres en scène, des super partenaires, mais je savais pas comment faire. Mais les enfants, alors là, je pensais que j'avais des solutions à tout, toujours. L'assurance était retirée sous des pieds. Je n'avais plus confiance, mais pas seulement en mère, mais en grand-mère, en rien du tout. Je ne voulais pas qu'on me laisse un enfant avec moi. Je n'avais plus du tout confiance. Perte confiance, totalement.
Vous allez sortir un deuxième livre ?
Faut le travailler d'abord.
Dans ce deuxième livre, vous allez dessiner plus que ce qui est là. Dans ce livre-là, il y a des poèmes, il y a quelques dessins.
Oui, il y avait plus de dessins. Moi, j'aurais mis plus de dessins. Mais pour les éditions étrangères, ils demandent des photos. C'est chiant, ça.
Oui. C'est bien, les dessins, oui. Vous dessinez.
Oui, je trouve ça moins plus original, les dessins, que de mettre des photos. Mais bon, si mon frère me donne des photos, c'est peut-être drôle, parce qu'il était sur cette période-là, il était là tout le temps avec Serge et moi. Donc, dans le deuxième, les dessins sont mieux. Ah ouais. Bon. Ah oui, parce que je dessine pas mal quand même.
Vous dessinez très bien. Vous dessinez très bien, et puis surtout vos dessins ont la saveur de l'instant dont vous parlez.
Je les aurais mis plus grands, les dessins. Mais c'était compliqué, parce qu'en fait, comme c'était sur les cahiers d'enfants, ils sont en carré. Donc, tout devient trop... C'est une complication de les reproduire. Parce que rien n'était fait pour. Donc, c'était des sketchs faits n'importe quoi sur n'importe quoi.
Ce sera ma dernière question, Jane Birkin. Et alors, ce singe ?
Ah, Monkey. Eh bien, avec le mort de Serge, je ne savais pas quoi mettre dans la boîte du tout. Et dans l'effroi des enfants devant leur terreur, j'ai mis ce que j'avais de plus important et de plus réconfortant pour elle. Donc j'ai mis mon singe dans le coffre avec Serge. Il l'a toujours voulu, mon singe. Il l'avait toujours voulu. Je lui ai donné d'autres peluches, mais il voulait le singe.
Il a fini par l'avoir.
Il l'a eu.
Merci, Jane Birkin.
De rien.